Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. Épisode numéro 163. C'est la fin de l'été, 27 août 2026. Je suis Horacio González et aujourd'hui, je suis entouré de trois éléphants PHP qui peuvent se cacher derrière. Derrière ce joli éléphant rose, ça doit être Nathan Boiron. Nathan, tu es là?
Salut!
Derrière l'éléphant multicolore, Cédric Mourissard. Cédric, tu es là?
Salut!
Et derrière cet éléphant blanc et vert, éléphant Silius, c'est quoi, non? Ça doit être Sébastien Bruna. Sébastien, tu es là?
Yes, hello à tous.
Merci à vous trois d'être là pour cet épisode de rentrée. Donc, comme d'habitude, on va commencer par un petit tour de table. Allez, Sébastien, tu étais le dernier à être nommé. Tu peux te présenter et nous rappeler qui tu es?
Bien sûr. Bonjour à tous. Donc, Sébastien, je suis ingénieur avant-vente pour Clever Cloud. Donc, mon boulot, c'est de répondre à toutes les questions des clients techniques qu'ils pourraient avoir. Et puis, je fais pas mal de SAV aussi par la suite pour les clients existants. Voilà. Et j'ai une bonne appétence pour PHP depuis des années, puisque j'ai commencé quand j'avais 14 ans.
Ah, oh, ça ne me rajeunit pas car il dit ça, mais c'est un de nos fans inconditionnels de PHP, donc c'est pour ça qu'il fallait que tu sois là pour cet épisode, parce que, comme vous verrez, les éléphants n'étaient pas là que pour les décors. On va continuer avec Nathan. Nathan, tu peux te présenter?
Oui, tout à fait. Mais moi, c'est Nathan, je suis développeur PHP depuis, je pense, à peu près le même âge. J'ai commencé au collège. Ouais. Et aujourd'hui, je suis entre deux tafs et à côté de ça, je suis vice-président de l'AFUP, qui est l'association française des utilisateurs et utilisatrices de PHP en France.
Je pense que ce n'est pas la dernière fois dans cet épisode qu'on entend parler de l'AFUP. Cédric, tu peux nous dire qui tu es?
Bonjour, rebonjour, je suis Cédric Brizard, je suis directeur technique de Synolia. J'ai commencé le PHP, je n'étais pas adolescent parce que ça n'existait pas forcément. Donc sur PHP 3, au début des années 2000, et puis j'ai suivi un petit peu l'évolution parce que j'ai commencé comme développeur, et puis au fil de l'eau, en basculant sur la direction technique, j'ai un petit peu mis moins main dans le cambouis, mais je suis toujours. J'ai commencé aussi à l'AFUP et à l'AFUP, je suis aujourd'hui dans ce qu'on appelle le conseil de surveillance.
Nickel.
Un petit peu plus tard, je pense.
Écoute, quitte à avoir des personnes de l'AFUP ici, autant commencer par parler un peu de l'AFUP. Alors, qui veut me raconter qu'est-ce que c'est l'AFUP pour ceux qui ne connaissent pas?
Je peux essayer. L'AFUP, c'est une association à loi 1901, but non lucratif, qui existe depuis l'année 2000. Donc, on a 26 ans cette année.
Wow.
Et on existe depuis quasiment aussi longtemps que le PHP, qui a fêté ses 30 ans l'an dernier. La mission principale de l'association, c'est de permettre l'accès à la connaissance autour du PHP à travers tout ce qu'on fait. Donc, on organise des meet-ups dans différentes villes, des conférences à différents moments de l'année qui sont captées ou pas et qu'ensuite, on diffuse gratuitement sur Internet pour tout le monde.
Et moi, c'est un truc qui m'a toujours interpellé parce que moi, au début des fin des années 90, j'étais dans l'univers Java. J'ai découvert PHP début des années 2000, mais moi, ça m'a surpris voir une association d'utilisateurs de PHP niveau national se créer quand dans les autres langages, même s'ils sont très orientés communauté, côté Java, on a tous les différents Java User Group, mais c'est plutôt des initiatives locales. Et moi, ce côté-là de créer une association nationale en plus, aussitôt, ça m'a surpris et de voir, c'est même aujourd'hui perdurer cette association, je trouve ça génial. Pourquoi c'est une spécificité PHP pour vous? Pourquoi dans les autres langages? Quelle est la différence avec ce qui se fait dans les autres langages? Comment est-ce que vous avez réussi un truc comme ça?
Bon, alors, La genèse, on va dire qu'elle, c'était effectivement pour essayer de centraliser un petit peu tout ça via un forum, via des moyens de partager et dont les événements. Et donc très vite, il y a eu un forum PHP, très rapidement derrière la création de la FUP, quelques années après seulement. Et pour gérer ce genre d'événements, eh ben il faut souvent, c'est mieux d'avoir une structure, enfin au moins un cadre. Et donc du coup, l'asso s'est créé un peu aussi autour de tout ça, ou s'est dynamisé, on va dire, un peu de tout ça. Donc des événements locaux avec les antennes, on en reparlera peut-être un tout petit peu, et des événements nationaux. Donc c'est vraiment ça, c'est une union de communautés pour quelque part unifier les tous au lieu d'attraper les tous, et puis on en fait une communauté un peu plus globale, un peu plus nationale. Donc c'est vrai que c'est très décentralisé, puisqu'on a il y a une quinzaine d'antennes actives. Donc une antenne, c'est quoi? C'est dans une ville, on a un groupe de personnes qui vont organiser des meet-ups de manière assez régulière, potentiellement. Et donc pour des meet-ups, soit des meet-ups pour boire un coup et partager autour de PHP, soit des meet-ups pour présenter des conférences, et aussi à l'après, boire un coup et manger un morceau. Et après, autour de ça, il y a aussi des événements annuels, on pourra reparler, dont le forum, justement. Et donc, c'est tout ça qui fait la FUP, en fait. C'est tous ces échanges locaux, nationaux. Et il y a des moyens de communication, des newsletters, des Slack qui ont remplacé les forums, ainsi de suite, des veilles, des choses comme ça. Donc, et ça permet d'animer cette communauté.
Je me demandais, est-ce qu'on a dit ce que ça voulait dire la FUP, d'ailleurs?
Je ne suis pas sûr, mais c'est l'Association française d'utilisateurs de PHP. Je crois qu'il y a plus ou moins dit ça, mais...
Tout à fait. C'est ça.
Moi, je n'étais pas sûr, c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait intéresser quand même.
Et je pense que pour revenir sur ce que tu disais, sur le fait qu'il y a une particularité avec le PHP, à mon avis, c'est aussi dû à un côté unique du PHP par rapport à d'autres langages, c'est que historiquement, il n'y a pas eu de grosses entreprises derrière. En Go, il y a Google, en Java, il y a Oracle, etc. Il y a toujours une entité qui a des moyens derrière ces langages, ce qui n'a jamais été le cas avec PHP. Ça fait que 3 ou 4 ans qu'on a une fondation maintenant qui aide le langage. Donc pendant 20 ans, il n'y a rien eu. Et du coup, il y avait un vide. Et en France, ce vide, il a été rempli par la FUP.
Tiens, j'avais pas pensé à ça, mais carrément. Bon, et vous savez parler des forums, les forums PHP. Un gros événement tous les ans et ça arrive bientôt, l'édition 2026, c'est ça?
Tout à fait. C'est les 8 et 9 octobre à Disneyland Paris, à l'hôtel Marvel.
Vous savez, bien entendu ça, c'est une conf tech et ça se passe à Disneyland Paris, dans l'hôtel Marvel. Ce qui est carrément impressionnant. Pour être allé plusieurs fois, c'est wow comme cadre. Et c'est un des cadres de conf les plus chics que j'ai jamais vu.
Et en plus, on mange pas mal, en général.
Ils ont un bon traiteur chez Disney.
Ça fait partie des points d'attention aussi. D'un questionnaire de retour, il y a toujours un petit topic sur la nourriture. C'est bizarre, mais ça fait partie des sujets. Pas autant que le niveau des conférences, mais quand même, c'est important.
On aime bien dire en interne que si la seule plainte des gens, c'est sur la nourriture, c'est qu'il n'y a pas eu de problème.
En général, on ne se plaint pas de la nourriture en plus. Mais voilà, je suis allé, je crois que 3 ou 4 fois, et à chaque fois, je suis super content de comment ça se passe. C'est vraiment un événement communautaire et on voit la plupart des grands acteurs de PHP en France, on voit plein de confs. Mais racontez-nous un peu plus, bon, déjà, combien de monde vous attendez cette année? Racontez-nous un peu, pour que les gens qui sont déjà, est-ce qu'il vous reste encore de place et les gens qui regardent cet épisode peuvent y participer ou vous êtes déjà sold out? Racontez-nous plus de choses, s'il vous plaît.
Alors, on vise entre 500 et 700 personnes sur l'événement. On n'est pas encore sold out cette année, donc il reste des places. Il ne faut pas hésiter d'aller sur le site, donc kafup.org, pour prendre sa place, site hébergé par Clever, au passage. Merci. Et donc, il ne faut pas hésiter. Donc, c'est 2 jours de conférences pleines. Il y a 3 tracks en parallèle. Cette année, il y a une track qui sera aussi dédiée à l'IA parce que c'est un gros sujet qui anime la communauté et toutes les communautés tech, pas que celle de PHP. Donc, ça fait plus d'une 30aine de conférences. Pas mal de, aussi de conférencières et conférenciers, et donc avec des sujets de tout niveau, plutôt niveau, on va dire, débutant, plutôt niveau des sujets d'architecture. Il y a des sujets aussi parfois d'échanges dans les équipes, donc de management. Donc c'est PHP, mais pas que, c'est-à-dire que ça va aussi en périphérique à tout ce qui touche au métier technique du développement. Donc voilà, il reste encore quelques places, donc il ne faut pas hésiter à aller les prendre, que ce soit des places individuelles ou même il y a des packs de places aussi si des entreprises veulent envoyer des équipes complètes, par exemple. Donc c'est des choses qui sont possibles. Faut pas hésiter à contacter la FUP. Et aussi on a il y a quelques tarifs aussi pour si des personnes sont on va dire en difficulté ou autre, qui peuvent contacter la FUP, non plutôt pour tout ce qui est étudiants, demandeurs d'emploi et autres, qui peuvent avoir aussi un certain tarif référentiel par rapport justement pour aller vers plus d'accessibilité, on va dire, de la conférence à tout un chacun.
Nickel, Boba. Et sérieusement, si vous touchez de près ou de loin à des PHP, je pense que c'est vraiment un super événement et ça vaut la peine d'y aller. Et une fois que vous allez, je pense que vous allez vouloir y retourner carrément. En tout cas, c'est mon cas et Sébastien semblera compter la même chose.
Oui, carrément.
Bon, bah, donc la FUP, les forums PHP, et quelqu'un a mentionné tout à l'heure la fondation PHP. C'est quoi la fondation PHP? C'est une sorte de gouvernance de langage? Quel est son rôle? Racontez-nous un petit peu.
À la base, pareil, c'est une association à but non lucratif qui est incorporée aux États-Unis, mais qui a une ambition mondiale pour le PHP et qui est née il y a quelques années parce que j'imagine que vous connaissez le buzz factor oui. En informatique. Historiquement, en PHP, le buzz factor ça a beaucoup été 1 ou 2, ce qui est dangereux pour un langage utilisé par 80% des sites internet du monde. Et donc, quand une de ces 2 personnes à l'époque a décidé de quitter la contribution à PHP pour se concentrer sur autre chose, ça a accéléré la création de cette fondation pour recruter et payer des gens pour travailler sur le langage lui-même. Et donc maintenant, il y a, je crois, 10aine de personnes qui travaillent à temps plein ou à temps partiel, ça dépend des gens, sur le langage en lui-même. Donc, carrément de la contribution de features ou du tri d'issues, de la review de pull request, du debug, de l'entretien général. Et là, aujourd'hui, la mission de la fondation, elle va plus loin que ça, parce que avec l'arrivée d'Elisabeth comme présidente de la fondation, elle veut mettre l'accent sur la communication autour de PHP. C'est un langage qui se traîne une vieille réputation qui a plus de 10 ans et qui n'a plus lieu d'être, et la communication c'est quelque chose qui aide à ce genre de choses, et ils font ça à travers plein d'actions. Celle qui nous concerne la FUP particulièrement, c'est que ils ont accepté de faire un partenariat avec la FUP pour le forum, et donc ils seront présents pendant le forum là en octobre.
Ah, ça c'est cool carrément.
Voilà.
Bah, la dette de communication côté PHP, c'est effectivement un problème. Et pour la petite anecdote, moi j'ai fait plein de confs dans l'année et un truc qui m'avait toujours surpris, c'est que dans la plupart des confs dev, on parle de tous les technos dans une conf quelconque, on parle de Java, JavaScript, Go, Python, n'importe quoi, et jamais de PHP.
Mais...
Et donc, j'avais fait une petite expérience, j'avais envoyé à plein de CFP un talk sur PHP, ce n'est plus ce que vous vous souvenez, un truc autour de... Voilà, pour casser ce... Et cette année-là, j'avais envoyé une quinzaine de fois avec d'autres propositions, des autres propositions ont été retenues et ce talk-là n'avait pas été retenu une seule fois. Et donc, j'avais commencé à en parler dans des massies, en discutant avec des orgas. Et donc, cette année, ce talk-là, j'ai réussi à le faire en 4 ou 5 confs. Et à chaque fois, il y avait énormément de monde qui disait « Oui, moi, j'avais touché PHP au début des années 2000, mais après, j'étais parti sur d'autres choses. » Et j'étais resté sur l'idée de PHP comme ça. Et maintenant, ah bah, peut-être je vais y retourner parce que ça a l'air cool ce que tu expliques. Et c'était un peu, pour beaucoup de monde, pour énormément de monde encore, c'est ce langage de début des années 2000, en gros, jusqu'à PHP, surtout PHP 3.4 et début de PHP 5, qui est resté ancré dans lequel les supports étaient globaux, dans lequel type lui, donc ton namespace de fonction est fait ça en require, dans lequel il y avait plein de choses qui étaient compliquées. Et là, quand il dit non, mais là, c'est un langage mature, il y a toutes les fonctionnalités que dans un langage mature, il y a des frameworks adaptés à chaque type d'utilisation, les gens regardent, ils s'ouvrent grand les yeux. Et moi, je me suis toujours posé la question de pourquoi ce déficit de communication est arrivé là, où est-ce que la communauté PHP et le reste des communautés se sont un peu séparés, pris des chemins différents?
Après, dans notre métier, il y a un côté tribal aussi, où on aime notre technologie et puis on reste dedans et les autres sont nuls. Le PHP, on aime bien tirer les oreilles aux gens qui font du JavaScript, alors qu'en fait, on est copains. Mais il y a un peu de ça aussi, je pense. Qui a joué.
Comme tu dis, le langage a beaucoup évolué. Au départ, c'était vu comme un langage de scripting pour certaines personnes, et elles sont un peu restées là-dedans, et ça a été une espèce de troll permanent qui n'a pas forcément lieu d'être, parce que quand tu regardes les sites web en production dans le monde, en fait, un pourcentage majoritaire est en PHP, en fait. Donc c'est ça, ça n'a pas lieu d'être, parce que pour le coup, le langage a énormément évolué, ça s'est beaucoup structuré avec les nouvelles versions du langage. Enfin,
notamment le typage qui est apparu et qui était une grosse critique. Moi, ce que j'entends surtout, c'est quand les gens disent PHP c'est caca, ils se réfèrent effectivement à des vieilles versions. Quand on leur demande explicite ton propos, ils sont incapables d'en dire plus, à part qu'ils n'ont pas touché au langage depuis 10 ans, qu'ils sont restés sur des a priori précédents, et qu'on leur dit oui, mais maintenant il y a du typage, il y a notamment la grosse critique qui était par rapport à ça, oui, mais de toute façon, les développeurs PHP, ils écrivent du code cochon, parce qu'effectivement, c'est possible, et ça marche, mais bon, est-ce que c'est bien, ça c'est une autre question. Que forcément ça impliquait pas une hygiène de code correcte, mais c'est vrai qu'avec les outils qu'on a maintenant, il y a vraiment plus de raison de penser ça. Ça a tellement évolué que les développeurs qui connaissent leur métier, en fait, ils ont tout ce qu'il faut pour avoir une bonne hygiène de code. Ouais. La vieille réputation ne tient plus, à mon sens.
En fait, il y a eu un gros basculement vers 2015, quand à l'époque, c'était PHP 5, ça vient beaucoup de cette version-là, la réputation. Enfin, ça s'est arrêté à la version 5. Il n'y a pas eu de version 6, c'est une longue histoire. Et on est passé à la version 7. Et la version 7 a changé beaucoup de choses parce qu'elle a introduit énormément de choses dans le compilateur qui ont ouvert la porte à tout ce qui a permis à PHP de se moderniser jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment un moment bascule qui a existé en partie grâce au fait qu'à cette époque-là, Facebook a fait un fork de PHP qui s'appelle Hack, avec leur VM qui s'appelle HipHop. Et ils utilisent encore du Hack aujourd'hui dans la codebase de Facebook. Et c'est quelque chose qui a poussé le langage PHP à se moderniser à l'époque.
Et aujourd'hui, honnêtement, si vous n'avez pas touché PHP depuis une dizaine d'années, je conseille à tout le monde d'aller jeter un œil. C'est vraiment super agréable à utiliser. Et vous savez tout ce qu'il peut vous falloir, autant niveau langage que niveau outillage autour, quoi. Parce qu'il y a aussi ça, il y a l'équivalent de ce que vous savez dans n'importe quel autre langage. Il vous faut un gestionnaire de paquets, il y a Composer, il vous faut, et vous voulez vous assurer que même si le langage est interprété, que votre IPAS est correct, bah, il y a PHP Stand. Vous avez des outillages pour faire tout, vous avez un langage qui est mature, et vous avez quand même un langage qui reste bah, un des plus utilisés au monde, avec une grande partie des sites web qui en dépendent toujours, donc jetez un œil, on ne sait jamais. Ah, et bien entendu, Claude, ChatGPT, Codex et d'autres, ils sont plutôt très, très, très doués à faire des bons PHP, justement parce qu'il y a autant d'exemples, je pense, mais ça marche
très, très, bonne très, très ouais. bien.
Encore plus, c'est important sur PHP pour l'entraînement des IA, donc forcément...
C'est ça.
Clairement.
C'est un vrai plaisir, moi, Claude, générer des PHP, des symphonies, des Laravel...
Il y a eu beaucoup de travaux d'effectués aussi sur... Bon, il y a quelques frameworks, on va dire, majoritairement utilisés en PHP. Et tous ces frameworks aussi, il y a eu des gros travaux d'effectués sur les dernières années sur ce qu'on appelle Developer Experience pour justement démarrer, bootstrapper rapidement un projet, réinclure des librairies, faciliter les montées de versions, ainsi de suite. Et ça aussi, ça facilite la vie et ça... Ça fluidifie aussi la développeur expérience et l'usine logicielle associée, en fait. Pour mettre de la CI/CD, pour mettre de la code quality, pour mettre de la performance quality. Enfin, tout ça, c'est présent. Donc, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir encore quelques relances sur c'est du scripting, ainsi de suite. Quoi. En fait, c'est plus le cas. C'est juste plus le cas.
Oui, depuis longtemps.
Oui, depuis longtemps. Bon, bah, donc PHP, il y a les forums. Donc n'oubliez pas, si vous êtes libre début octobre, il reste encore quelques places. On va continuer, nous, avec nos sujets. Je vois qu'on a une énorme pile de sujets. Oh, je pense qu'on peut attaquer par un des sujets qui a fait plus de bruit dans les milieux tech, mais aussi pour une fois hors les milieux tech. Je parle bien entendu des nouvelles fuites de données qu'il y a eu ces dernières semaines. Je n'ai pas l'exhaustivité. Moi, je me suis surtout intéressé à celle aux impôts et celle à l'éducation nationale. Celle des impôts, bah, je pense que vous savez tous. Il est écho dans les différents, parce que ça fait les news nationales, dans les différents journaux, etc. Celle de l'éducation nationale a fait un peu moins d'écho, mais a priori, il est en train de perturber la rentrée dans pas mal d'académies. Donc, qui veut commencer à nous raconter ce qu'il a lu, ce qu'il a... Ben, sinon, je commence. Les impôts, a priori, il y a un groupe de hackers qui a eu accès, on dirait qu'avec de l'ingénierie sociale, parce qu'a priori, ils ont eu des credentials internes sur les impôts pour récupérer des données de 1 million de contribuables, quelque chose comme ça, des données qui incluent non seulement les données personnelles, mais aussi des données d'imposition, comme les revenus imposable et aussi, a priori, de la messagerie, c'est-à-dire les messages que vous avez envoyés au fisc avec vos questions et les réponses qu'ils vous ont données. Vous avez plus ou moins eu les mêmes news, j'imagine, non?
Oui, exactement.
Ouais, c'est ça, c'est les impôts, la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, c'est ça, c'était un accès légitime. Qui a été utilisé pour siphonner des données, mais apparemment l'accès avait été entre-temps fermé, mais ils n'avaient pas identifié qu'il y avait des données qui avaient fuité, et ça a mis un certain temps apparemment avant que justement les hackers disent on a des données, et c'est là qu'ils ont dit ah mais en fait au-delà d'avoir eu l'intrusion on a eu aussi une fuite, quoi. C'est assez compliqué pour eux,
je pense. Assez compliqué.
Ouais.
Ils ont mis un temps avant de communiquer là-dessus, il me semble.
Bah, ils ont attendu que ce soit revendiqué, ouais. Il me semble.
Ouais, oui, c'est ça.
Ce qui n'est pas l'habitude en général, en tout cas dans le privé, quand il y a une fuite, on n'attend pas de savoir qui, on communique plutôt rapidement.
En fait, je crois qu'ils n'avaient pas de certitude. C'est ça qui est le plus inquiétant, c'est qu'ils sont incapables de savoir s'ils ont eu des fuites ou pas jusqu'à ce que quelqu'un dise oui, mais j'ai les données et je peux le prouver.
Ah oui.
A priori, ils savaient qu'il y avait un accès non autorisé, mais ils n'avaient pas réussi à tracer qu'est-ce que cet accès-là avait fait.
C'est que ça manque d'audit en plus, donc.
Moi, ce que je reproche surtout dans ce que je peux voir avec l'expérience que je peux accumuler, notamment avec les workload, c'est parfois, j'ai l'impression, ils ont un manque de moyens criant qui fait que, en fait, ils peuvent pas être en capacité de détecter.
Oui.
Et je pense que c'est dommage que ce soit maintenant que le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à ce qu'on mette en lumière les manquements. C'est un peu tard, quoi. C'est dommage parce que ça fait quand même quelques années que assurément qu'on le sait sans vouloir le voir que les moyens alloués au système d'information ils sont pas au niveau et ça se voit notamment. Sur des systèmes quand on voit la tronche des sites, on se dit c'est pas possible, c'était fait il y a 20 ans et ça n'a pas bougé depuis, vu la tête du site, et, vu le fonctionnement. Je pense notamment à tout ce qui est lié à l'éducation nationale, notamment, ça a été refait récemment, il y a quoi, un ou deux ans, les sites qui gèrent tout ce qui est BAFA, encadrement des jeunes dans les accueils de mineurs, ce genre de choses. Il y a encore deux ans, c'était archaïque, la tête de ces sites-là. Les applications marchaient mal. Ouais. Bon, c'est un exemple que j'ai en tête, mais je sais qu'il y en a d'autres au-delà de ça. Hein.
Oui, puis une fois que tu enlèves la partie labs, le reste reste quand même très, je pense, très verticalisé. Donc c'est pareil, périmètre de responsabilité. Ainsi de suite, tout ce qu'on peut avoir comme, on va dire, management ou autre, sectorisation, verticalisation, cloisonnement entre les services, je pense que ça ne doit pas aider non plus quant à ce genre de choses. C'est peut-être pas mon périmètre. Moi, j'ai fermé l'accès. Après, l'analyse, c'est peut-être pas mon périmètre, des choses comme ça, qui peuvent peut-être se produire dans certaines organisations de ce type aussi.
Oui, puis il y a une dimension politique, genre en termes d'image, dire en tant que Premier ministre, je vais mettre plein d'argent pour la sécurité dans tout ça, c'est visuellement, ça n'a rien de visuel en fait, c'est pas quelque chose qui est facile à vendre à tout le monde. Je trouve qu'il y a un parallèle avec ce qui s'est passé avec l'énorme incendie en Gironde. Ça fait des années que dans le coin, tout le monde dit il faut mettre plus de moyens, et en fait, c'est maintenant qu'il y a une réaction qu'il y a toute la forêt qui est partie en feu. On est un peu dans la même situation, en fait. On réagit après parce que c'est impressionnant.
En fait, tout le monde voit midi à sa porte, surtout. Tant que ça ne nous touche pas, ça nous paraît lointain. Puis dès que ça nous touche, forcément, on se sent super concerné. Ouais. On est outré par le fait que rien n'a été fait jusqu'à présent.
Il y a aussi l'effet cumulation, les impôts, l'éducation nationale. C'est a priori, en plus, les deux, c'est des services qui demandent à tous les citoyens de faire confiance à leurs outils. Ça fait des années que 90% des gens font la déclaration en ligne. Aux parents d'élèves, on nous demande d'utiliser l'outillage de l'éducation nationale. Les deux se font à un mois près, a priori par les mêmes acteurs, Segovites, a priori à faire la revendication, donc par les mêmes groupes de hackers. Et on s'est dit, derrière, que des services qui sont censés être généralisés, que tout le monde doit s'en servir, il n'y a pas trop le choix, il faudrait réussir à trouver la façon de leur fournir plus de moyens et de permettre qu'ils soient sécurisés autrement, parce que derrière, c'est les données personnelles de tout le monde qui sont partis, quoi.
Oui. Un autre côté, je trouve, qui m'inquiète là-dedans, c'est, je trouve qu'on le voit un peu en Angleterre où l'État réagit à ce genre de choses en freinant l'effort open source de l'État. par peur d'exposer le code, parce qu'ils comprennent pas comment ça fonctionne. Et j'espère qu'on va pas arriver à ça en France, parce qu'on fait, l'État fait beaucoup d'open source depuis plusieurs années, avec la suite numérique et avec plein d'autres choses. Il faut espérer que ils réagissent pas bêtement à se dire « Ouh là là, on montre du code, et ça c'est un problème, et ça vient de là, et du coup on arrête. » Ce serait dommage.
Oui, ça serait bien dommage.
Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il faudrait aussi harmoniser un petit peu la direction des opérations. Il y a la DINUM qui fait des choses, il y a l'ANSSI qui fait des choses qui sont un peu, disons, transverses, mais j'ai l'impression aussi que les ministères, ils font un peu comme ils veulent au-delà de ça. Et en fait, avoir une direction commune et avoir un vrai programme du numérique qui va dans une direction avec une organisation qui va avec et qui traverse bien correctement tout, en rattachant tous les éléments et en ayant des capacités d'action concrètes en fonction des situations, pourrait aussi aider. J'ai l'impression que là, c'est vraiment les efforts sont vraiment éparpillés, les budgets aussi, ce qui fait que je pense qu'en termes d'optimisation et de ressources humaines et de ressources financières, je pense qu'il y a mieux à faire. Voilà, c'est un peu un constat aussi de l'administration française, de façon en général, qu'on peut faire assez ouais. facilement.
Et je crois que Nathan avait dit un truc, c'est qu'il y a aussi un manque de connaissances. N'oublions pas que dans l'administration, on parle encore de numérique comme les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies qui sont encantantes, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent d'être nouvelles et que ça devienne comme l'eau ou l'électricité, des commodities, de quelque chose qui doit être compris, cadré et sécurisé.
Oui, on n'a toujours pas de ministère dédié, on n'a toujours pas. Enfin, donc, il y a un vrai sujet sur la prise, comme tu dis, la prise de conscience que c'est un actif à part entière. Hein. Enfin, on en parle de plus en plus avec la notion de souveraineté et ainsi de suite, mais le numérique, c'est un actif, effectivement. Et là, on est sur des basiques, quand même. Hein. Ces problèmes-là, ils viennent de problèmes basiques, ils viennent pas de failles dans du code ou quoi que ce soit. Hein. C'est de la double authentification qui n'est pas activée, c'est des choses comme ça, en fait. On est quand même sur... C'est compliqué de faire entendre ça quand, à côté de ça, dans des entreprises privées, on te dit qu'il faut respecter le RGPD, il faut être NIS 2, il faut le Cyber Resilient Act, l'AI Act.
C'est par-dessus la jambe, surtout.
Il faut que tout le monde, tous les auto-entrepreneurs, tous les assos de France passent à la facturation numérique dans 3 jours, au moment où on enregistre cette vidéo.
Même nous, on doit
d'ailleurs, il y a une pétition qui a été faite d'un moratoire sur la facturation électronique. Je vous laisse aussi les liens. Mais quelque part, il y a ces dichotomies-là. D'un côté, c'est le sujet que personne n'a envie de s'occuper. C'est les nouvelles technologies, c'est les trucs de geek. De l'autre côté, on force tout le monde à aller, même si on sait que les trucs n'est pas maîtrisé. Les gens se méfient, bon, c'est pas très grave. Et donc, il y a une sorte de flou dans dans les traitements de tous les numériques au niveau de l'État.
C'est des actions à plusieurs vitesses, hein, entre ceux qui sont restés 20 ans en arrière et ceux qui veulent avancer très vite parce qu'il y a une volonté, disons, locale, sans un ministère, par exemple. Il y a quand même une disparité importante. Et il y a aucune, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a aucune ou peu de coordination au final dans les efforts. Enfin, il manque une direction. C'est clairement, c'est clairement ça que, en tout cas moi que je vois, c'est il manque une direction commune, des objectifs communs et arrêter que les efforts soient éparpillés.
C'est difficile dans une machine de la taille de l'État où potentiellement tout change tous les 5 ans, quoi. C'est même là la facture électronique. C'est censé devenir là dans 3 jours obligatoire de recevoir et dans 1 an d'émettre. Sauf qu'entre les deux, il y a une présidentielle. Donc en fait, si ça se trouve, ça va complètement changer. C'est ça qui est compliqué aussi avec ce genre de choses.
Oui,
après, il y a plusieurs sujets. Là, sur les failles de sécu, c'est de l'implémentation technique. Donc là, c'est faire appliquer ce qu'on demande à appliquer à tout organisme. Et après, effectivement, il y a toute la direction de... l'actif numérique français, qu'est-ce qu'on en fait quand on parle des data centers, quand on parle d'être dépendant de services d'autres États ou européens ou extra-européens, et ainsi de suite, que ce soit matériel. On parle des puces aussi. On ne sait pas faire de puces en Europe, ou du moins pas de manière majeure, pas de manière grand public. On parle des chipsets.
Les mauvais billards,
on espère.
On parle des questions de billards. Question d'éducation aussi. Là, la fuite qu'il y a eu à l'État, c'est, à la base, elle n'est pas technique. Donc, en fait, il y a un manque aussi de sensibilisation des équipes à arrêter de cliquer sur les pièces jointes dans les mails, à peut-être faire des campagnes d'exercice au sein des différents ministères et organismes, ce qui se fait beaucoup dans le privé et probablement qui manque dans le public.
Oui, et ajouter une authentification à des facteurs, ça aurait sûrement rendu la tâche bien plus compliquée.
Oui,
mais c'est comme dit Sébastien, c'est aussi une histoire de direction et de se dire c'est un sujet, on en met les moyens. Parce que je pense qu'ils sont les premiers à vouloir bien faire. Hein, quand tu parles à des DSI Carrément. D'hôpitaux, DSI de l'éducation nationale ou autre, ils sont les premiers à vouloir mettre du 2FA, avoir que des systèmes à jour, avoir.
Mais ils sont toujours sur Windows XP et tout va bien.
Et leur scanner n'a pas bougé et c'est compliqué pour eux. Hein. Enfin, je veux dire, il ne faut pas tirer sur l'ambulance non plus.
Le scanner est connecté au réseau et. Pas de chance, PC qui contrôle le scanner est sous un vieux système.
Oui, mais eux, quand ils ont à mettre à jour le parc, c'est pas comme une boîte privée où il y a 1000 PC, il y en a 200 000 à mettre à jour. Donc, c'est pas du tout la même chose, voire plus.
Puis, c'est des systèmes vitaux, parfois. C'est, donc, mais il faut quand même faire avancer ce mammouth. Il faut arriver à le faire bouger.
Pour les impôts, je ne connais pas, mais pour l'éducation nationale, je connais un peu les outils. Et oui, certains semblent sortir directement des moments où toi, Cédric, ou moi, avons découvert PHP, quoi.
Des impôts d'entreprise, il est dans son jus aussi. Hein.
Après, il y a quand même pas mal de nouveaux outils, dont ceux qui viennent de beta.gouv.fr, quand même, qui sont, qui sont faits de manière ultra clean,
France Identité,
accessible aussi, France Identité numérique. Enfin, voilà, donc il y a quand même pas. Ouais. Ils ont essayé de faire quelque chose à côté, quelque part, pour, au lieu d'essayer de migrer, et ça, c'est une très bonne chose et ça faut le souligner. Il faudra arriver à avoir cet esprit-là sur beaucoup plus de sujets, d'enjeux de services numériques français.
Pour l'éducation nationale, de ce que j'en vois, parce que ma compagne est prof, elle me parle de la multitude de d'outils dans tous les sens qui n'ont aucun lien entre eux. En fait, c'est ça, il manque d'harmonisation. Je me suis demandé à un moment si effectivement la plupart ne sortaient pas de BetaGouv. C'est des initiatives un peu isolées qui ont été développées, qui sont allées à terme et qui ont été exposées. Mais derrière, le lien entre eux est inexistant. Chaque sujet a son outil différent et s'y retrouver devient super compliqué. Donc, j'imagine pas l'inventaire que ça représente. Et trouver, réussir à maintenir tous ces systèmes-là correctement à jour et au niveau, vu la multitude d'outils, je me demande comment ils font. Je ne sais pas.
En tout cas, il y a un gros sujet là et espérons que, comme on disait tout à l'heure, ça va être pris au niveau des sérieux que ça mérite aujourd'hui, quoi.
Mais.
Bon, alors, qui va nous parler d'autres sujets qu'on avait dans notre backlog? Tiens, je crois que c'était toi, Nathan, qui m'a parlé d'une annonce qui ressent autour de Hugging Face, non?
Tout à fait. Il y a Hugging Face qui est en discussion avec Nvidia pour être racheté pour, 12 ou 13 milliards de dollars. Donc, c'est pas fait encore, c'est en discussion. Je sais que Hugging Face a discuté avec Microsoft, qu'il y a déjà eu une tentative de rachat l'an dernier, de mémoire.
Oui, mais qui n'avait pas réussi. Là, ça pourrait bousculer carrément les des choses. Si Nvidia, qui est le maître de matériel, prend Hugging Face, qui est la marketplace de modèles par excellence, là.
Ouais. Et puis qui sont les seuls à être rentables pour l'instant dans le monde de l'IA. Nvidia. Tous les autres font que perdre de l'argent pour l'instant.
Nvidia, c'est les fabricants de pelles et de pioches dans la fièvre de l'or, oui.
Ouais, c'est ça. Mais... Bah ouais. Après, Hugging Face, c'est quelque chose qui aide beaucoup à la diffusion des modèles open source. Je ne sais pas à quel point les gens qui diffusent ces modèles vont apprécier que leur plateforme appartienne à Nvidia. Le risque pour Nvidia, c'est que tout le monde migre vers autre chose.
Mais de l'autre côté, l'avantage, c'est que Nvidia, c'est un des peu qui peut faire la... Disons... qui s'en fout des coûts derrière d'héberger ces modèles-là. Ils sont les matériels pour. Ouais. Hugging Face, c'est la diffusion, mais aussi, il y avait les côtés, on peut héberger les modèles, on peut... Donc, je pense que ça peut faire sens. Après, pour la diffusion, je ne vois pas trop que pour les modèles open source, ça pose un souci que derrière la diffusion, ça fait par Nvidia, ou pas plus qu'un GitHub qui appartient à Microsoft, soit l'endroit dans lequel on met tout notre code open source.
Il y aura peut-être quelques abonnements qui vont apparaître.
Peut-être qu'ils vont ajouter de... Parce que là, actuellement, Hugging Face, à moins que je me trompe, c'est surtout du stockage de modèles et de données.
Oui et non, ça c'est la partie gratuite qu'on utilise tous pour récupérer nos modèles, mais tu peux faire héberger les modèles.
Ah, il y a besoin de l'inférence. Okay. Oui.
Et c'est la partie, comme ils sont censés gagner de l'argent,
ah, bah oui.
Ils se font héberger les modèles pour des entreprises, pour des particuliers, oui. Pour des chercheurs qui veulent tester. Donc, quand tu as un modèle open source qui te plaît, tu peux le télécharger et le faire tourner chez toi, ou tu peux cliquer et le monter en inférence chez eux. Et a priori, sur cette partie-là, c'est là qu'être part d'NVIDIA, ça peut rendre cette partie-là plus simple, j'imagine.
Oui, ben on le voit sur leur page de tarification, tous les GPU disponibles pour l'inférence, c'est que du NVIDIA. Donc il y a un filon pour eux.
Je me dis que NVIDIA pourrait étendre le modèle économique avec quelques nouveaux abonnements sur des parties qui ne l'avaient peut-être pas encore.
Ouais.
Augmenter les prix, on espère
ouais,
pas.
Classique.
Voilà.
Je ne suis même pas sûr pour monter les prix. D'ailleurs, je crois que j'avais parlé dans les dernières massies, mais Nvidia offre aujourd'hui sur une page d'inférence l'accès à, je crois qu'il y avait 70-80 modèles open source d'inférence gratuite, mais littéralement gratuite. Et okay. Je l'ai testé en mettant un open code devant. Ce n'est même pas si lent que ça. Et donc, pour moi, l'intérêt d'NVIDIA, ce n'est pas de monter les coûts de l'inférence. Au contraire, c'est de pousser pour vendre plus de pouces derrière. Je ne les vois pas s'aborder en faisant une inférence chère. Pour moi, au contraire, ils vont pouvoir même réduire les prix comme ils ont fait dans leur portail développeur. Après tout, leur intérêt, c'est vendre des pouces. Que tout le monde soit cherche de l'inférence et que tout le monde achète de quoi faire de l'inférence.
Ouais, de toute façon, être, le gatekeeper, être un gatekeeper sur des diffuseurs de modèles, tu as toujours moyen de financer derrière, enfin, de mettre du freemium, de l'accès contrôlé. Enfin.
C'est clair.
Et c'est quelque chose d'intéressant pour NVIDIA, c'est que tous les modèles soient optimisés pour NVIDIA. Les jours où il y a des autres architectures de GPU chinoises ou d'autres qui commencent à se généraliser, c'est ça qui peut être néfaste pour eux. Donc, ils ont tout intérêt de quelque chose qui optimise les modèles pour NVIDIA, qui fait tourner de l'inférence sur NVIDIA. Pour eux, ils ont tout intérêt à les préserver.
Clairement.
Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Sinon, sur les achats aussi, ce n'est pas les seuls. J'avais pas vu, mais il y a quelques semaines, quelques jours, voire quelques semaines, OpenRouter a été racheté par Stripe. Et celle-là, ça m'avait surpris. Autant Nvidia, je vois, bon, va bien acheter une interface, autant Stripe va bien de se racheter le principal marketplace d'inférence, quoi.
Ils Est-ce essaient que vous de se diversifier.
OpenRouter, vous savez tester?
Oui. Oui, c'est très pratique pour pouvoir switcher de modèle facilement sans justement avoir à les monter, sans ainsi de suite. Donc, tu as un seul abonnement. Tu peux avoir une version entreprise aussi, enfin, gestion d'entreprise, tu vois, pour louer des budgets à des personnes, ainsi de suite, ou à des clés. Donc, ça peut être quand même assez pratique d'avoir accès via une interface unique à plein de modèles, quoi.
Tester des nouveaux modèles dès qu'ils sortent. Ouais.
C'est intéressant de voir de voir quelque chose comme Stripe qui est à la base un système de paiement se rapprocher de quelque chose comme un OpenRouter où on est dans le sujet du moment, c'est-à-dire la facturation par exemple au token, qui n'est plus la facturation c'est une autre typologie de facturation en fait que de facturer un coût fixe et d'avoir un acteur important du paiement venir creuser un petit peu ce modèle-là.
Oui, justement, qu'ils y trouvent un double intérêt. Il y a à rentrer dans la ruée vers l'or comme tout le monde et acquérir des employés qui savent facturer au token pour ensuite intégrer ça dans Stripe pour plein d'autres systèmes et proposer derrière des solutions Stripe de paiement au token.
Carrément. Oh non, j'étais surpris, mais j'ai trouvé ça... En plus, c'est ça, c'est l'acteur majeur des paiements en ligne va pouvoir récupérer aussi tout des moyens de paiement au token, de facturation.
Exactement, tu vas pouvoir faire la même typologie de plateforme demain comme tu avais... Des cartes bleues qui géraient des comptes en banque ou autre. Là, c'est un peu la même chose, en fait. Tu as des systèmes qui te permettent de gérer des tokens au sens entreprise du terme. Donc, on va dire, tu peux faire une similarité entre quelqu'un qui gère des budgets, des paiements, des CB et des comptes à quelqu'un qui gère des tokens, en fait, des masses de tokens qui réallouent en fonction à des personnes, à des modèles, et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est vraiment de la gestion... c'est l'architecture de la gestion financière, en fait, des flux de monnaie. C'est un autre moyen, mais c'est le même. En fait, tu changes euro par token ou unité monétaire par token. En fait, c'est un peu la même chose, quoi. Donc, tu vas sur l'infrastructure de paiement. En fait, tu restes sur l'infrastructure de paiement. Quelque part.
Et puis, il reste plus que le token devienne une blockchain. Et puis, c'est bon, la boucle est bouclée.
En parlant de tout ça, et côté communauté PHP, comment il est perçu l'arrivée de IA? Comment est-ce que les gens s'en servent massivement? Est-ce qu'il y a de la méfiance? Est-ce que c'est très variable?
Il y a de tout, honnêtement. Il y a, comme je pense, dans n'importe quel univers tech, des gens qui sont à fond dedans, des gens qui n'aiment pas ça, des gens qui essayent parce qu'il faut prendre le train en marche. Il y a de tout. Ce que je sais, qui est probablement le cas dans plein de milieux tech, c'est que ça rend l'entrée dans le milieu plus difficile pour les juniors. Les gens qui débutent, les gens qui font des reconversions, qui cherchent une alternance, qui cherchent leur premier taf, c'est vraiment difficile aujourd'hui, alors que ça ne l'était pas il y a 3 ans. Les gens un peu plus seniors sont moins touchés, même s'ils le sont quand même. Et donc, ça crée un peu de méfiance dans le milieu à cause de ça.
Oui, on est dans le mix, hein. Enfin, comme dans tous les métiers, pas que PHP. Hein. C'est excitation, peur, nostalgie, un peu de tout ça, quoi. Hein. Donc, si on fait une autre minute promo, c'est aussi pour ça qu'au forum, on a fait une track dédiée à l'IA, où on aura un peu tout ça. On aura des gens qui viendront présenter leur stack de développement. Il y aura des gens qui viendront de parler de IA frugale. Il y aura des gens qui vont venir voilà, nous parler d'outillage.
On a trouvé un équilibre de conf pour et contre.
Voilà. Et on a décidé, d'habitude, il y avait deux tracks. L'année dernière, il y avait déjà trois tracks. Mais là, cette année, on a décidé, l'équipe qui gère le forum, l'équipe de bénévoles dédiée à ça, a décidé aussi de faire une track, une de ces trois tracks, la rampe dédiée à l'IA. Et elle sera ponctuée, elle sera terminée, on va dire, quelque part, par une table ronde où, ben, justement, on a le privilège d'avoir Quentin qui viendra parler, entre autres. On aura aussi quelqu'un qui est développeur depuis plus de 15 ans qui viendra parler de sa vision de la chose. Et on aura aussi quelqu'un qui vient de... qui est enseignant informatique. Donc, en fait, on se dit que cette table ronde-là aussi permettra d'avoir, un peu comme là, quand on discute à Massy, d'avoir un échange avec trois points de vue, business, stratégique, développeur et aussi enseignement, qui peuvent être intéressants pour justement échanger sur comment le métier évolue, quoi, clairement.
Carrément.
Et ça sera un des points d'orgue du forum cette année.
Ouais.
C'est bien de faire une track dédiée. Je trouve que ça permet d'un côté de montrer l'importance des sujets et de l'autre côté de ne pas saupoudrer de l'AI à droite à gauche, mais plutôt les donner une place, les centrer et laisser aussi de la place pour les autres sujets. J'aime bien l'approche.
C'est ça, en fait. Ça permet à la fois aux gens qui sont vraiment intéressés par le sujet de passer deux jours à ne voir que ça. Ils peuvent aller voir la track pendant les deux jours, assister à la table ronde sur l'IA, et les gens que ça n'intéresse pas, eh ben, y a une track qui est facile à éviter, et ils peuvent aller voir plein d'autres choses. On essaie de trouver un juste milieu pour...
C'est lisible.
Faire autonomie. C'est ça. Sachant que dans cette track, on essaie aussi de faire la part des choses et d'avoir, comme disait Cédric, des sujets pour et des sujets contre l'IA. Parce qu'on ne veut pas prendre parti, on veut juste permettre aux gens d'explorer le sujet à leur manière.
C'est ça. Ok. Sur de l'onboarding, sur vraiment tout. Allez, n'hésite pas, le programme est en ligne sur le site de la FUB, donc n'hésitez pas. On peut filtrer justement pour savoir tout ce qui va concerner l'IA. Donc c'est assez facile à identifier. Vous verrez justement toutes ces diversités de sujets sur une même thématique, en fait, qu'on a réussi à avoir cette année parce que on a eu beaucoup de soumissions au CFP. L'équipe qui gère le CFP, donc l'appel à conférence de la FUP, pareil, c'est une autre équipe de bénévoles dédiés, a eu pas mal de soumissions et donc aussi ont vu émerger cette tendance de proposition de talk autour de cette thématique-là. Et donc, ça a permis de joindre les deux, quoi. Entre la volonté d'avoir cette track et aussi avoir aussi, on va dire, l'essence qui permet d'alimenter le moteur, quoi.
C'est clair. Tiens, tu as parlé IA frugal. Je ne me suis pas tellement intéressé au thème, mais je suis beaucoup intéressé à l'IA locale. J'ai testé beaucoup de petits modèles, de moyens modèles. Et un qui m'a bluffé en cette fin d'été, c'était le Qwen 3.8 avec 27 milliards de paramètres. En gros, c'est un modèle qui doit faire quelques 17 gigas en mémoire. Plus le contexte, en gros, ça peut tourner dans un ordi, dans un Mac ou une architecture à mémoire partagée à 32 gigas, il peut tourner. Et pour moi, il est extrêmement bluffant. Ça va de tous les modèles que j'ai réussi à faire tourner dans ma machine locale, je crois que c'est celui-là qui m'a impressionné le plus parce qu'il arrive à résonner d'une façon assez poussée et à aller chercher l'information. Donc, ce n'est pas un puits de connaissances, c'est un petit modèle. Ce n'est pas tellement la connaissance qui est poussée comme le raisonnement et la capacité à aller chercher de l'information. Et il donne des résultats que je n'avais pas vus hors des modèles open source plutôt beaucoup plus grands, de 128, de 256. Donc là, on commence à arriver au point qu'avec des modèles locaux, on pourrait faire une bonne partie des activités, laisser les gros modèles pour la partie tailler le travail, diviser les tâches, planifier, mais pour les tâches d'exécution, il est épatant. Donc, je vous laisse en lien avec un fil Twitter dans lequel il est analysé un peu plus en détail, mais en tout cas, Je suis de ceux qui pensent que les modèles locaux vont pouvoir répondre à énormément de besoins d'ici quelques temps, et là, ça va carrément dans ce sens-là. Donc, si vous avez un Mac à 32 gigas ou un, moi, j'ai un AMD strict salo avec mémoire CPU, GPU partagée, bah, testez-les, je pense que ça vaut carrément la peine.
Est-ce que c'est pas un peu Apple qui va gagner cette course parce que c'est les seuls à développer des CPU
AMD fait qui sont... ça. La série strict salo d'AMD,
le niveau qui est développé, assez... ouais.
C'est pas exactement au niveau d'un Mac Studio haut de gamme. Par contre, les prix non plus. Aujourd'hui, okay. Les AMD 395 Plus, c'est la puce qui est en strict salo. Il a jusqu'à 128 gigas de mémoire partagée. Aujourd'hui, bah, ça coûte, dans les, même avec la dernière augmentation de RAM, dans les 4000 euros les mini-ordinateurs équipés avec 128 gigas de RAM mémoire partagée. Il n'est pas aussi puissant qu'un Mac Studio 128 gigas. Par contre, ce n'est pas du tout le même prix. Donc aujourd'hui, il y a aussi l'architecture DGX d'NVIDIA, des petites machines autour de 5000 euros, 6000 euros aussi à 128 gigas de RAM. Sauf que derrière, c'est une architecture ARM, donc il y a des choses à changer pour faire tourner tes modèles, mais ils commencent à voir pour faire de l'inférence locale des machines que, ouais, je pense que Apple il va gagner parce que c'est Apple et il faut toujours parier sur Apple sur ce type de choses. Mais derrière, il commence à avoir des alternatives qui niveau prix sont assez raisonnables comparées avec les jolis Mac Studio machin. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité ou si vous avez des vieilles GPU qui traînent, testez les modèles locaux, même avec des modèles qui prennent 10 gigas de mémoire, ils commencent à avoir des trucs qui vont vous faire vont vous bluffer. Parce que, souvenez-vous, où est-ce qu'il était ChatGPT il y a même pas 300 ans.
Oui, pour certaines tâches, en fait.
Ouais. Juste aujourd'hui, simplement pour certaines tâches, c'est suffisant, hein, du Gemma 4 ou autre, pour faire de la trad, de la transcription, de faire des choses comme ça.
Même Mistral Small, de la reformulation, du traitement qui reste simple, largement suffisant.
Aujourd'hui, même sur les téléphones, je n'ai pas un appel haut de gamme, j'ai un petit Motorola pas cher. Là, j'arrive à faire tourner des modèles. Les Gemma 4 les plus petits par exemple, et là ça va plus loin que ça pouvait aller à ChatGPT d'il y a 300 ans. ChatGPT d'il y a 300 ans, il hallucinait, mais comme Sébastien dit, il y a plein de cas, reformuler des textes, résumer, traduire, où c'est épatant et ça tourne full local. Donc j'étais un œil, intéressez-vous, je pense que c'est une des réponses à, on parlait IA frugal tout à l'heure, à la consommation énergétique de l'IA et à tout ça. C'est si pour les tâches quotidiennes, c'est ton ordi, c'est ton téléphone qui font tout ça et tu as besoin de faire appel au gros IA, que pour les grosses tâches, ça va dans le bon sens.
Même pour dans tout workflow agentique d'aujourd'hui, déjà, en fait, hein, mettre le bon modèle sur la bonne tâche, comme tu mets le bon tool sur la bonne action, comme tu mets ainsi de suite. Hein. Je veux dire, c'est une stratégie d'architecture agentique, hein, d'orchestration.
Oui, mais quand tu dis architecture agentique, orchestration, j'ai l'impression justement que ça fait peur à plein de monde qui ne sont pas encore là. Oui. Parce que là, ça montre que tu as pris le sujet, que tu as déjà que tu es dans une approche agentique, que tu as commencé à les structurer avec une architecture et des modèles différents, donc un orchestrateur capable. Et si vous êtes là, bien entendu, vous avez tout à gagner. Mais même si vous commencez maintenant et vous utilisez la IA comme un agent de code, s'en aller, même là, vous pouvez, pour plein de tâches, avec un open code ou quoi que vous utilisez, ou même avec débrancher et passer sur des petits modèles pour certaines tâches, et vous verrez la, vous verrez comment ça peut bien se passer.
Par pour faire tourner tes modèles en local, tu utilises l'app de Google là, qui te permet de les tester directement?
Non.
Sur ton téléphone?
Sur le téléphone, j'utilise une petite app open source dont le nom m'échappe. Donc, c'est pour ça que je vais... Ça s'appelle Off-Grid. Off-Grid. Okay. Off-Grid AI. Et là, tu peux télécharger directement les modèles depuis Winface, comme on disait tout à l'heure, et les faire tourner. Donc là, ça me donne accès non seulement au modèle Gemma, mais à n'importe quel modèle sur Winface.
Sur, comment ça s'appelle ? Sur Android, là, tu as Google qui a réalisé une appli il y a plusieurs mois, là, déjà, qui s'appelle Edge Gallery.
Oui,
justement, en fait, qui est pareil, tu peux faire du chat, demander, parler d'images, faire la souscription, enfin, de l'audio, de la transcription audio, des choses comme ça, avec des. Tu choisis les modèles que tu utilises dans l'appli et les télécharges en local, en fait.
Oui, mais là, c'est limité au modèle Google. C'est pour ça que j'ai testé, j'ai l'utilisé. Et celle que j'utilise, Off-Grid, l'avantage, c'est qu'il fait la même chose, mais.
Quand tu parlais de facilité d'accès, c'est une app sur la marketplace comme une autre, tu vois.
Ça existe sur iPhone aussi. Je viens de vérifier. Je viens de l'installer sur iPhone.
Ah, tu n'as rien à faire, en fait. Tu mets ton compte et tu télécharges les modèles en local et tu utilises comme n'importe quel outil d'IA de chat, quoi, en fait, pour que ce soit tes audios ou autre. Et c'est vrai que ça devient hyper accessible, quoi.
Bah oui. Google AI Gallery. Je mets les liens pour Off-Grid AI et Google AI Gallery. Comme ça, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas tester.
Et par contre, tous les modèles, certes, qui tournent en local, ils ont tous besoin d'avoir été entraînés avec des gros GPU très chers.
Bien sûr.
Oui, mais si c'est la phase d'entraînement qui consomme énormément d'énergie et tout, et derrière l'inférence, ça va de... Tu entraînes une fois l'inférence et c'est utilisé tout le temps. Moi, ça va déjà tellement en avant. Et aussi, bien entendu, après tout, on est côté clever. Il y a le côté vie privée, le côté maîtrise de tes données. Pour moi, ça, c'est une autre raison. Je n'ai pas forcément envie de donner à Claude ou à OpenAI accès à ma boîte mail, mon calendrier, mon tout. Donc, pour moi, ça, c'est le use case idéal pour de l'AI local. C'est tout ce que tu as envie de t'assurer que reste dans tes données. Boba, ça fait une heure qu'on parle et comme j'ai expliqué au démarrage, il ne faut pas que l'épisode dure beaucoup plus parce qu'on sait qu'au moins une bonne partie parmi vous nous écoutez pendant que vous faites la séance de sport. Donc, qu'est-ce qu'on vous dirait si on arrête l'épisode là? Mais pour ça, il me faut une musique de fan. Alors, Cédric, Nathan, qui va nous proposer? Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Qu'est-ce que tu as dans les casques quand tu travailles, Nathan, par exemple?
Moi, j'ai redécouvert Les Trois Accords. C'est un groupe québécois qui a une chanson que j'aime bien qui s'appelle Corinne.
Ok. Avec Les Trois Accords, on va clôturer cet épisode. Merci beaucoup, Nathan. Merci, Cédric. Merci, Sébastien. C'était un vrai plaisir. Et merci à vous de nous écouter pour cet épisode de rentrée. Bonne journée tout le monde.
Salut, merci.
Merci. Salut. À vous.